Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Altermédia en escapade, une émission qui prolonge et complète les contenus du bimédia citoyen et indépendant Altermédi, en partenariat avec Radio Escapade. Nous sommes ensemble pour une heure d'infos citoyennes et indépendantes en région avec Marin à la prise de son. Et oui, il n'y a pas que les entrepreneurs qui passent à l'action. Il y a aussi ceux qui se demandent ce qui peut leur arriver de pire et qui finissent par se dire « je n'ai plus rien à perdre ». Ceux qui luttent contre l'idéologie mortifère du toujours plus. Ceux qui souhaitent agir pour la nature. Ceux qui sont convaincus qu'on peut changer le monde par nos petites actions. Tout passe, tous passent à l'action. L'action comme mode de combat, de résistance ou de construction, c'est le menu du jour de cette émission. On évoquera l'action « Désarmer l'Empire Bolloré » qui s'est tenue la semaine dernière durant 5 jours dans tout le pays, et notamment à Montpellier, contre le milliardaire et son empire. On parlera des batailles conduites par le mouvement de la Terre, et plus particulièrement des actions de sabotage, de l'action qui s'organise dans le secteur de la culture et de l'éducation, avec les coupes budgétaires nationales et locales qui s'abattent en ce moment. Comment réagir face à la montée de plus en plus préoccupante de l'extrême droite dans le monde? Après l'élection de Donald Trump, l'onde de choc se propage aux 4 coins de la planète. Vous avez entendu, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais la riposte antifasciste s'organise en menant des actions concrètes. C'était le cas du 29 janvier au 2 février autour de l'appel « Désarmer l'Empire Bolloré ». Des journées d'action contre le milliardaire et son empire ont été organisées à travers toute la France à l'appel d'une large coalition réunissant une centaine d'organisations. Signe des temps, de nombreux collectifs écologistes ont rejoint l'appel, entamant un tournant pour lutter davantage contre les ravages du capitalisme décomplexé et de l'extrême droite. D'après les organisateurs, les raisons de se mobiliser contre le milliardaire et son groupe sont nombreuses. Pillage colonial et atteinte aux droits humains, mise sous tutelle de la recherche publique, accaparement des terres agricoles, appropriation hégémonique de médias et de maisons d'édition, Bolloré est en guerre pour l'hégémonie culturelle, la conquête des imaginaires et la fabrique du consentement au pire. Bien au-delà d'une figure toxique et d'un dessein personnel, la bolosphère est avant tout un système, peut-on lire dans l'appel à manifester et à agir. Sur le terrain politique, Bolloré est la cheville ouvrière de l'union des droites, de l'alliance objective entre le bloc libéral et le bloc néofasciste. Une alliance qui colle parfaitement à ses intérêts de classe et à ses convictions politiques. Les parties prenantes de cette action considèrent qu'il est aujourd'hui d'intérêt public de faire obstacle à son développement. Ainsi, durant 5 jours, de multiples sites de l'Empire Bolloré à travers la France et la Belgique ont été visités, visibilisés, fermés, perturbés, repeints, détournés, désarmés. Au total, plus de 70 surgissements ont eu lieu, précise un communiqué commun des journées d'action. Aucun des secteurs clés de cet empire, extractivisme et énergie fossile, agro-industrie, néocoloniale, industrie techno-sécuritaire, conglomérat médiatique et culturel, n'a été épargné. À Montpellier, la collusion avec la recherche publique et les intérêts privés de Bolloré a été dénoncée par des rassemblements devant le CIRAD qui travaille sur l'amélioration génétique de palmiers à l'huile, main dans la main avec la SOCFIN. Cette dernière incarne le pire de l'industrie néocoloniale. Elle est visée par de nombreuses procédures judiciaires et ONG pour ses exactions. Le CIRAD recherche emploi près d'un million de salariés et pour la plupart, ils n'étaient pas au courant que leur employeur travaille avec Bolloré. La mobilisation a fait sortir le directeur régional Vincent Fabre-Rousseau et la chargée de communication qui sont venus préciser que les entreprises ne représente que 10% du budget du CIRAD. Suite à cette action, le débat devrait s'ouvrir en interne sur le bien fondé de la présence de la SOCFIN, accusée de graves violations des droits humains. ce qui démontre que les militants des groupes locaux Extinction Rebellion et des soulèvements de la Terre présents sur place ne sont pas venus pour rien.
God damn the push out.
ambiance sismique sur Radio Escapade après The Pusher de Hoy Axton, un titre qui reflète sa propre force, reflète sa très forte addiction à la cocaïne. À ce propos, d'ailleurs, la semaine dernière, un contrôle a été demandé des parlementaires et contrôle des stupéfiants pour les parlementaires a été déposé. Si elle s'est appliquée, elle devrait fournir des résultats intéressants. Vous êtes à l'écoute d'Alter Midi en Escapade, l'émission mensuelle qui prolonge et complète les contenus du Bimédia citoyen, l'indépendant Alter Midi. Aujourd'hui, on parle de l'action comme mode de combat ou de résistance. Avant que la Terre ne se réveille pour de bon, il semble urgent de ramener à la raison les apprentis sorciers milliardaires qui se sont mis en tête de devenir les maîtres du monde, au mépris total de la nature et des peuples qui l'habitent. Pour y parvenir, on vous conseille la lecture du petit manuel « Première secousse » paru aux éditions La Fabrique, premier livre collectif des soulèvements de la Terre à l'usage des débutants. Ce livre rend compte des expériences concrètes menées par le mouvement écologiste qualifié de « radical » qui axe la plupart de ses actions sur la récupération des terres, notamment la lutte contre les mégabassines ou le bétonnage, mais pas que. Première secousse a été écrit alors que les soulèvements de la Terre rencontraient des soucis juridiques avec Gérald Darmanin, qui souhaitait dissoudre le mouvement en le qualifiant de terroriste. Mais l'ex-ministre de l'Intérieur, devenu depuis ministre de la Justice, on se demande comment, a été désavoué par le Conseil d'État. Cette procédure a permis au soulèvement de la Terre de se renforcer à travers la création d'une multitude de comités de soutien qui ont fleuri dans toute la France. J'ai appris il y a peu que nous en avions un dans mon petit village cévenol de 350 habitants. Comme quoi les invectives fumeuses et répétées de Gérald Darmanin sont parfois utiles aux amateurs de savoir-vivre. En décembre dernier, Alter Midi, en partenariat avec la cantine solidaire Le Fenouil à Vapeur et le café-librairie Youpi, organisait une rencontre avec les co-auteurs du livre des soulèvements de la Terre à Avignon. Pour éclairer nos lanternes, nous avions demandé à Benoît, qui habite sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, après un combat victorieux pour protéger 2000 hectares de bocage contre un mauvais projet d'aéroport, et à Léa, architecte basée sur Avignon et engagée dans la lutte contre la bétonisation, comment ils appréhendent le sabotage. Ce mot effrayant pour certains désigne l'action de détériorer, de mettre hors d'usage volontairement et le plus souvent clandestinement du matériel, des machines, des installations militaires ou civiles, ou de désorganiser et de compromettre le succès d'un projet, d'une puissance politique ou d'une entreprise. On vous fait profiter de cette leçon de sagesse de maître en ces matières. Alter Midi vient cependant à décliner toute responsabilité quant aux conséquences esthétiques, politiques ou digestives liées à la mise en pratique des conseils ici recueillis. Toute ressemblance avec des personnes présentes ou à venir serait certes surprenante, mais pas impossible.
On a été décrit par un rapport des renseignements territoriaux juste avant notre dissolution comme un mouvement qui aurait effectivement aidé à diffuser la pratique de l'action directe et du sabotage, y compris au sein d'organisations écologistes qui n'en avaient pas forcément l'habitude. Et je pense que si c'est arrivé, c'est pas forcément parce que nous on l'a bien fait, c'est parce qu'il y a un truc de l'époque de se dire qu'en réalité il y a une urgence, un sentiment d'urgence vis-à-vis de la catastrophe et un sentiment que tout un tas de formes de type lobbying, pression, conscientisation n'ont pas été suffisantes et qu'à un moment, quand on voit disparaître telle forêt, telle terre agricole à côté de chez soi, qu'il y a tel chantier de bassine qui va démarrer et mettre en danger l'accès à l'eau, ben, il y a des gens de certains territoires qui, à l'exemple de ce qu'on a fait encore une fois à Notre-Dame-des-Landes, se disent « là, il va falloir physiquement arrêter le chantier ». Après, on n'a rien inventé. Effectivement, je pense qu'on vient dire quelque chose que beaucoup de gens ressentent, de dire « si nous, on ne prend pas les choses en main là où on habite, personne ne va le faire à notre place ». Et de plus, d'avoir perdu, d'avoir une forme de résignation dans le fait que les gens qui nous gouvernent le feraient, pour des raisons assez objectives, de couvrir les profits de quelques-uns, ça c'est très clair. Après, c'est pas nous qui avons amené la pratique de l'action directe, illégale, que ce soit l'occupation, le blocage ou le sabotage dans la lutte. Là, l'exemple que tu cites, effectivement, c'est une manière de rappeler que depuis que des gens sont exploités à l'usine et encore de manière antécédente, ben, des gens qui se laissent pas faire et qui, de manière plus ou moins discrète, assumée, spectaculaire, souterraine, tentent d'enrayer la machine qui les exploite. Si on prend rien, j'allais dire rien que depuis la perspective des luttes écologistes, depuis on rappelle que aux États-Unis et en Angleterre notamment, les mouvements d'écologistes radicales ont vraiment diffusé la pratique par rapport aux coupes claires, par rapport à la destruction d'espaces naturels, par rapport à des grands projets de barrages. Il y a eu des mouvements écologistes très populaires, très massivement repris, qui ont diffusé dans des livres et dans leurs mouvements des pratiques d'action directe plus ou moins individuelles, plus ou moins collectives. En France, si on prend le mouvement des OGM, c'était un mouvement de sabotage de masse, d'action directe, d'arrachage, de dommages matériels, qui a été victorieux d'ailleurs en France, enfin, jusqu'à un certain point. On a encore des problèmes avec certains types d'OGM aujourd'hui. Je veux dire, c'est un mouvement qui a su agir et par des actions de sabotage de nuit à visage couvert et par des actions de sabotage de jour à visage découvert, donc il y avait une complémentarité, mais qui a su agir par ces pratiques-là. Les grandes victoires, quand je parle du mouvement contre Notre-Dame-des-Landes, on pourrait parler des grandes victoires antinucléaires en France, il y a toujours eu une composante de ces mouvements-là qui, hein, des mamans, allaient enrayer, brûler, démonter des machines. Et après, forcément, parce que c'est des tactiques qui, à des moments, sont efficaces, parce que toucher au porte-monnaie, arrêter directement les chantiers, ça marque et ça montre qu'on peut reprendre les choses en main. C'est des choses qui ne plaisent pas du tout aux personnes d'en face, qui souhaitent que ces chantiers, ces grands projets d'aménagement capitaliste se fassent. Donc évidemment, il y a une criminalisation croissante de ce type de tactique. Et nous, je pense qu'on est arrivé avec la question du désarmement à un moment où le terme de sabotage, vous voyez, était assez stigmatisé, pouvait faire peur, pouvait être conçu comme quelque chose d'un peu radical et dangereux, un peu compliqué à employer, comme quelque chose, une action de niche. Et nous, je pense que depuis les soulèvements, si je parle du mouvement anti-bassine, par exemple, on a fait des grandes actions avec des milliers de personnes qui venaient démonter des grilles de chantier. Ça, on pourrait dire que c'est ce qu'on appelle une action directe de masse. C'est dire, à plein, on peut le faire, on doit le faire, le geste est facile, il se diffuse. Après, il y a des gens que moi, je ne connais pas, des groupes qui se sont dit aussi « Ah, mais nous, il y a des bassines existantes, on pourrait aller les démonter de nuit. » Ça a fait une espèce de pression très forte. Les deux, l'un dans l'autre, on pourrait dire, ou l'un et l'autre cumulés, ont fait que les coûts de sécurité des chantiers ont augmenté, que la pression politique, la pression publique a augmenté sur ces chantiers, et que c'est aujourd'hui plus dur pour eux qu'hier de continuer à promouvoir ce genre de grand projet. Après, ce que nous, on essaye de porter avec les soulèvements de la terre, c'est l'idée finalement d'une vulgarisation quasi, je ne sais pas si je peux dire ludique du geste, mais en tout cas, c'est se dire il y a des petits gestes qui ne sont pas dangereux. Vous voyez, on ne parle pas d'explosifs, on ne parle pas de choses très criminelles, on parle de gestes qui sont à la portée de chacun quand on se retrouve comme vous voyez, autour d'une bassine à démonter des grilles avec des petites clés, avec divers petits outils, on peut piocher, on peut creuser, on peut le faire à plein et ça peut avoir une incidence directe. Et pour nous, dans une ère de résignation politique telle qu'on la connaît, retrouver des gestes qui donnent le sentiment que quand on repart d'une manifestation, on n'a pas simplement revendiqué, on n'a pas simplement fait des demandes, mais on a directement fait quelque chose, on a mis en culture une parcelle, on a empêché qu'un chantier reparte, on fait que quand on occupe une usine, qui est les usines les plus toxiques du pays, elles ne se remettent pas à fonctionner dès le lendemain. Pour nous, c'est des gestes qui redonnent une confiance et une joie dans l'action collective qui manque énormément dans notre époque. Et que, en plus, cette résignation politique, quand on perd confiance dans le fait qu'on puisse avoir une incidence dans le cours du monde, on considère aussi que par les temps qui courent, c'est un des leviers, un des creusets de la montée de politique identitaire et fasciste. Et du coup, on se doit, et pour des questions écologiques et pour des questions sociales et politiques vitales, on se doit de retrouver une foi dans l'action collective. Et c'est un peu ce qu'on essaye de pousser.
Oui, et alors le terme désarmement, qui est donc celui qu'on emploie, découle du terme sabotage. C'est une autre façon de nommer le sabotage. C'est une façon aussi de d'appuyer sur la notion d'armement et de bah, de que ça soit des bassines, que ça soit des machines, que ça soit des entreprises, cette notion d'avoir en fait en face de nous des choses, des industries, des infrastructures qui sont pas juste nuisibles quoi, qui nous tuent, et donc telles des armes qu'il faut désarmer. On peut voir ça aussi, que ce soit sur des terrains de guerre, dans le nucléaire ou quoi, on doit désarmer des infrastructures ou bah, des champs de mines, il faut désarmer des armes qui sont posées au sol. Il y a vraiment cette notion de devoir s'attaquer à des armes qui nous tuent. Et il y a cette notion de légitimité qui entre en compte avec la notion de désarmement. Donc c'est un geste qui, c'est nous qui sommes en train de nous défendre face à ces industries-là et à ces machines-là. Et donc dans le fait de rendre ça accessible et de faire ça à plusieurs, de faire ça en plein jour, il y a aussi vraiment la volonté de pouvoir mettre en lumière ces machines ou ces infrastructures ou ces entreprises. Donc en fait, quand on va sur dans une cimenterie, dans une centrale à béton, ou quand on se rend sur une bassine qui est en train d'être bâchée, on voit concrètement ce qui est en train de nous nuire, quoi. Donc dans une centrale à béton, le fait de désarmer un silo du ciment dedans, de comprendre comment ces machines elles fonctionnent et comment les désarmer, ça permet vraiment de voir aussi c'est pas juste le problème, mais c'est de comprendre la mécanique de ces filières et de ces entreprises. Donc il y a vraiment la notion, je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est cette notion de légitimité à ces choses. Et quand je dis ces choses, je nomme vraiment que ce soit des infrastructures logistiques, quoi, des machines, et aussi des entreprises, parce qu'il y a quand même cette idée-là, c'est pas juste désarmer une bassine salée, mais en fait, qu'est-ce qui est tout autour de cette bassine-là? Et il y a des entreprises, ce que tu disais, le coût des chantiers, etc. etc. Donc il y a quand même tout ce qui découle ensuite de l'acte à proprement parler, qui participe au désarmement en tant que tel.
Are we out of love now? Is this just a bad patch?
Sommes-nous à court d'amour maintenant, ou est-ce juste une mauvaise passe, questionne dans cette chanson la grande dame de la musique que demeure Marianne Faithfull, décédée le 30 janvier 2025. Elle a survécu à tout, à la drogue, au sexisme et aux modes éphémères. Sur la pochette bleue de Broken English, sortie en 79, on voit presque le souffle de la chanteuse sortir en petits nuages de buée devant sa bouche. Si le fond est léger, l'interprétation vient ajouter une note d'inquiétude. Sa voix est toujours un peu plus ardente, un peu plus mélancolique. Temps couvert pour la culture. On commence avec une décision brutale prise par le ministère de la Culture, mesure nationale qui a bien évidemment des conséquences sociales et locales, le gel du pass culture collectif. Annoncé discrètement jeudi dernier par la société en charge du dispositif, il touche les établissements qui ont programmé ces interventions, mais surtout les intervenants culturels, les associations de la société civile, comme notre radio Radio Escapade, qui interviennent au sein du système scolaire, et pour lesquels c'est bien souvent une ressource essentielle, tant leurs secteurs se sont précarisés. La nouvelle est tombée sans réflexion ni concertation, comme un couperet, en témoigne Bruno Bolkevitch, le secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, le SNPDEN-UNSA.
Alors les académies ont communiqué en direction des établissements jeudi dernier, avec une information plutôt simple. 50 millions étaient prévus pour finir l'année scolaire jusqu'à l'été. 40 millions ont déjà été dépensés en janvier. Dans 10 millions, c'est terminé. Et en réalité, ça a créé une panique importante du côté des partenaires culturels, des enseignants et des équipes de direction qui ont très vite validé les projets entamés. Et le lendemain midi, il a fallu que le ministère ferme la plateforme. Il y a eu un emballement qui fait que ça a fermé quasi 24 heures après. C'est malheureusement la deuxième fois en un an qu'on vit cette situation. On l'avait vécu au mois d'avril sur les heures supplémentaires et le pacte enseignant dont on a beaucoup parlé, avec une décision du jour au lendemain également sur la fermeture de ces crédits-là.
Alors cette mesure de s'en prendre à la part collective du pass culture est d'autant plus incompréhensible quand on sait que la part individuelle du pass, qui représente 240 millions d'euros, fonctionne mal. Un rapport de la Cour des comptes appuie qu'elle finance essentiellement les jeux vidéo et les mangas des jeunes favorisés, tandis que la part dite collective, qui représente 90 millions, elle est dépensée sous l'autorité des enseignants et apparaît, elle, comme fructueuse en termes d'objectifs. Mais on décide de la réduire en menaçant tous les projets en cours cette année. Des discussions sont engagées pour que le ministère se rende à l'évidence, mais il faut, quoi qu'il arrive, s'attendre à des coupes.
Peaches and the mangoes that you could sell for me. What do you think my brain is made for? Is it just a container for the mind? This great gray matter. Since it replied, what is your woman? Is she just a container for the child? That soft pink matter, cotton candy, Majin Buu. Oh, oh, oh. Close my eyes and fall into you, you, you. My God, she's giving me pleasure. What if the sky and the stars are for show, and the aliens are watching live? from the purple matter. Sensei went quiet, then violent. We sparred until we both grew tired. Nothing mattered. Cotton candy, Majin Buu. Oh, 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 oh. Dim the lights and fall into a you. My God, giving me pleasure, 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 pleasure over matter.
You've been gone, I've been having withdrawals. You were such a habit to call. I ain't myself at all, had to tell myself no. She better with some fella with a regular job. I didn't wanna get her involved. By then, Mr. Benjamin was sitting in awe. Hops into my car, drove far. Falls too close, and I remember my memories no sharp. Butter knife, water life, anyway. I'm building y'all a clock, stop, what am I headway? She had the kind of body that would probably intimidate any of them that were unsouthern. Not me, cousin. If models are made for modeling, thick girls are made for cuddling. Switch worlds and we can huddle then. Who needs another friend? I need to hold your hand. You need no other man. We flee to other lands. Plank. Make her rob a motherfucking bank with no mask on and a rest of revolver.
Frank Ocean dans l'album Pink Matter, sorti en 2012 chez Island. Vous écoutez Alter Midi en escapade, une émission consacrée à l'action comme mode de combat, de résistance et de reconstruction. Autre coupe sombre pour la culture et ahurissante, locale cette fois, relevée par Libération, l'annonce du président socialiste du département de l'Hérault, faite le 27 janvier, de sabrer dans le budget culture pour équilibrer son budget global, a fait l'effet d'une bombe. Le quotidien national rapportait que la coupe serait de 100%. Localement, le fait de supprimer d'un revers de manche ce budget estimé entre 5 à 6 millions d'euros paraît relever d'une décision surréaliste. Difficile à comprendre puisque dans l'Hérault, le maintien de la dimension culturelle s'inscrit historiquement au cœur de l'activité économique. Si la culture ne relève pas des compétences obligatoires du département, elle est essentielle à l'attractivité touristique qui constitue la filière agricole et la ressource. On reprend. À l'attractivité touristique qui constitue la filière agricole, ressource principale du PIB départemental. Cette décision a soulevé un vent de panique chez les acteurs culturels, artistes et lieux de diffusion, dont beaucoup sont déjà dans le rouge. Dans le domaine culturel, le département a soutenu près de 400 associations et collectivités en 2024 à travers des actions comme le développement de l'éducation musicale. Il intervient également en soutien au festival proposé au domaine d'eau via une subvention annuelle versée à la métropole de Montpellier. En réponse à l'article de Libération, le président Kléber Mesquida est revenu sur le contexte budgétaire très tendu du département et la baisse de dotation d'État dont il estime l'impact à 130 millions d'euros. Il a aussi précisé que la baisse dans le budget culture serait de 48% et non pas 100% comme l'avait annoncé Libération. La réaction des syndicats liés au spectacle vivant, qui sera directement concerné par les coupes, a été rapide et unitaire. « Nous n'acceptons pas cette décision qui constitue une défaite de la pensée. Cette prise de position politique va mettre un secteur en très grand danger de disparition. » Sacrifier un rempart majeur contre la radicalisation des esprits, priver le public héraulté de spectacles, de concerts, d'expositions, de manifestations dans les salles et l'espace public, et de festivals tout au long de l'année. On fait savoir dans un communiqué commun à une dizaine d'organisations syndicales. On ne pourra pas se substituer aux baisses de l'État, a prévenu de son côté la présidente de région d'Occitanie, Carole Delga, qui déréduit l'enveloppe culture du département de l'Hérault de 100 000 euros. Le ministre de la Culture lui-même subit une nouvelle coupe de 50 millions d'euros après les 100 millions de décembre dernier. Dès lors, la question de la pérennité des missions de service public de la culture se pose plus que jamais. En bout de chaîne, les artistes et les techniciens sont victimes d'un effet domino qui prend la forme d'un tsunami. Dès lundi 3 février, la coordination des intermittents et précaires s'est rendue au conseil départemental pour sensibiliser les élus. Et les téléphones chauffent et le mouvement va s'intensifier jusqu'au vote du budget définitif attendu entre le 24 et le 26 mars. Au-delà, la saison culturelle 2025 risque de connaître encore bien des soubresauts. On réfléchit aux prochaines actions à mener car une chose est sûre, les intermittents ne vont pas en rester là. Promettent les intermittents et précaires d'un monde dont nous avons tant besoin. Petit morceau de soul music pour finir, que l'on oppose au déluge xénophone de la bolosphère qui fait chaque jour la promotion de discours sexistes et homophobes, légitimant les violences contre les femmes et les personnes LGBTQI+. Respect Yourself, interprété par The Step Singer, un groupe familial composé de la mère, du père et des enfants. Chapel Singer, Respect Yourself, activiste pour les droits civiques dans les années 60 aux côtés de Martin Luther King, avec lequel le groupe voyage et chante « Respecte-toi et fais-toi respecter ». Ainsi s'achève cette émission consacrée à l'action. Merci à Marin pour la technique. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. On va laisser le mot de la fin à Gandhi. Le silence devient lâcheté lorsque l'occasion l'exige de dire toute la vérité et d'agir en conséquence.